Alors,
salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Alors, cette émission, c'est le premier podcast d'une série. On espère une série très longue. C'est une discussion avec mon père. Alors, moi, je suis Sarah. J'ai 25 ans et je suis une jeune active. Et je suis accompagnée de mon père. Je te laisse te présenter.
Ahmed Jabala, je suis doyen de l'Institut européen de sciences humaines, je suis théologien et je suis également imam dans plusieurs mosquées.
Et tu es docteur ?
Oui, je suis docteur en islamologie, j'ai obtenu mon doctorat en 1987. J'ai travaillé sur un sujet concernant le Coran, c'est la notion du travail dans le Coran.
1987, ça date un peu. Oui. De la Sorbonne.
De la Sorbonne, Paris 4.
Alors, le but du podcast, c'est une discussion. J'ai souvent des discussions sur l'éthique musulmane avec mon père, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je dois les appliquer dans ma vie de travail et ma vie de femme de tous les jours. Et donc, il y avait plusieurs objectifs de ce podcast, et il y en a trois. La première, c'était de vulgariser certaines notions que toi, tu connais très bien et que tu utilises, et les décliner vraiment pour des personnes, je dirais, novices.
Oui.
C'est-à-dire moi, dans ce cas-là. Mm-hmm. Et les questions que mes amis peuvent me poser, mes collègues, etc. Aussi, essayer de décliner l'éthique musulmane dans le monde et la vie de tous les jours. Mm-hmm. Et enfin, c'était aussi de sortir du débat halal-haram, qui peut être assez réducteur. Il a sa place, mais... Voilà, il faut vraiment prendre, je pense, du recul sur notre religion. Mmh. Vraiment réfléchir aux finalités, aux applications qu'elles peuvent avoir. Et je pense que c'est vraiment, si je parlais un peu en mode business, c'est la valeur ajoutée de notre religion. C'est qu'on nous pousse à réfléchir, à aller vers l'essentiel. On a un lien direct avec Dieu pour qu'on puisse réfléchir. Et donc voilà, je pense que cet aspect-là de finalité était très important.
Oui.
Donc, merci beaucoup. Et puis, on va commencer la première émission juste après ça. Alors, le thème du premier podcast, ça va être l'actualité, puisque le Ramadan va commencer dans quelques jours. Et on voulait discuter des meilleures manières de se préparer au Ramadan. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Oh là là, je suis pas prête psychologiquement ni physiquement ». Parce qu'on parle beaucoup de ne pas manger, de ne pas boire. Mais il y a aussi une préparation spirituelle à avoir. Et j'aurais bien aimé qu'on discute de ça tous les deux. Alors pour commencer sur ce thème de la préparation au mois du Ramadan, j'aimerais qu'on fasse un petit point étymologique et sur les origines de Ramadan, qui est un mois dans le calendrier musulman. Et du mot siyam aussi. Parce que souvent c'est très intéressant et c'est vraiment riche en sens quand on rentre dans l'étymologie des mots en arabe.
Mmh. Alors, le mot, commençons par le mot siyam tout d'abord. Siyam, il a un sens dans la langue arabe qui veut dire s'abstenir. Mmh. C'est-à-dire le sens, c'est le fait de s'abstenir. Et d'ailleurs, même les jurisconsultes dans le droit canon, lorsqu'ils veulent définir un saum, le jeûne, ils disent, c'est le fait de s'abstenir, de ne pas manger, boire, etc., de l'aube jusqu'au coucher de soleil.
C'est s'abstenir des choses qui sont licites.
Voilà,
dans
tout
la
à
vie
fait.
De tous les jours.
Oui, c'est-à-dire l'exercice, si vous voulez, du mois de jeûne, c'est le fait de s'abstenir des choses qui sont en principe licites, mais c'est une manière, c'est un exercice pour cultiver en nous cette force intérieure, cette volonté de respecter des limites, qu'on va les mettre pour nous-mêmes et qu'on va les respecter. Personne ne va nous obliger de le faire. Bon, sauf, bien sûr, c'est notre foi, c'est notre conviction à Dieu, mais il n'y a personne qui vous oblige. Et cet exercice, il est très important. C'est-à-dire comment l'homme, d'une manière générale, il doit respecter ses valeurs, hein, d'une manière générale, et même s'il a la possibilité de les transgresser, il ne va pas le faire.
Choisir de ne pas le faire.
Voilà, choisir d'une manière libre et volontaire de ne pas le faire.
Exactement.
Et c'est ça, Assaum. Et d'ailleurs, dans le Coran, le mot Assaum est utilisé dans le fait de s'abstenir de ne pas parler. Par exemple, il est dit dans certains versets, "Inni nadhartu lirrahmani sawman." Marie, elle dit que elle ne parle pas lorsqu'on l'accusait d'adultère, etc. Enfin, le mot saum, alors, veut dire le fait de s'abstenir. Et je pense que c'est un exercice important dans le jeûne de se fixer des règles et respecter des limites à ne pas dépasser. Le mot Ramadan, on dit que ce mot vient de Ar-Ramdha. Ar-Ramdha, ça veut dire le sable chaud. On dit, on fait référence parce que bon, Saum, l'islam a commencé dans son berceau, dans l'Arabie, une région qui est connue par un climat très rude et très chaud. Et lorsqu'on parle de Ramadan, c'est le Sahara, c'est le désert. Et c'est pour faire allusion à l'état de soif qu'on peut avoir pendant le jeûne. Mais c'est quelque chose, bien sûr, qui est tout à fait à la portée. Bon, on fait le jeûne, on va avoir soif, mais on peut voilà, supporter jusqu'au soir. Sachant que, entre parenthèses, l'islam, il donne des dérogations pour des personnes qui se trouvent dans des situations où ils ne peuvent plus supporter le jeûne. Ils ont toujours la dérogation d'arrêter le jeûne.
Bien sûr.
Oui, mais il y a quand même cet exercice-là de se priver et de supporter, de cultiver, parce que là aussi, c'est une autre qualité qu'on peut cultiver à partir du jeûne, la qualité de la patience. Il est dit, d'ailleurs, dans un hadith, le prophète, il dit, c'est-à-dire la
La patience.
patience est la moitié de la foi. Et dans un autre hadith, il dit, c'est-à-dire le jeûne est la
Moitié
moitié
de
de
la
la
patience.
patience. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont tout à fait liées.
Merci.
Oui, alors c'est vrai, nous sommes très proche de ce mois de Ramadan, qui est un mois béni pour les musulmans, un mois qui revient tous les ans. Et pour essayer justement de profiter, je dirais, de tous les bienfaits spirituels et éducatifs de ce mois, il faut effectivement se préparer pour bien accueillir, parce que souvent dans la tradition musulmane, on parle du mois qui est hôte parmi nous, qui arrive et nous devons le bien accueillir. Alors, cette préparation, elle doit commencer, à mon avis, tout d'abord par le fait de bien saisir le sens, la signification. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'adoration, parce que le mois de Ramadan, le jeûne est un acte cultuel, dans l'acte cultuel, il y a le sens d'obéissance à Dieu, le sens de faire ce que Dieu nous a prescrit, mais Dieu aussi nous a demandé de bien réfléchir sur le sens et la signification. Alors, le jeûne, pour justement saisir ce sens, peut-être il est bien de se référer à un verset de la sourate 2, sourate Al-Baqarah. C'est d'ailleurs le verset où Dieu nous informe de cette prescription en s'adressant aux croyants, en leur disant: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyam, kama kutiba alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. C'est-à-dire, Dieu s'adresse aux croyants en leur disant qu'il nous a prescrit le jeûne comme il a prescrit pour ceux qui nous ont précédés, afin que nous trouvions à travers ce jeûne la piété. Alors, le jeûne, il a ce sens-là. C'est une adoration qui nous rapproche à Dieu. Et la relation entre le jeûneur et Dieu est une relation intime. Pour d'autres actes cultuels, ce sont des actes qui sont plutôt visibles. Mais dans le jeûne, c'est une pratique qui concerne le jeûneur dans sa relation directe avec Dieu.
D'ailleurs, il n'y a que le jeûneur qui sait s'il jeûne ou pas.
Tout à fait.
Ça veut dire que...
Voilà. Et c'est dans ce sens-là que nous avons aussi un hadith. Hadith, c'est une parole prophétique où le prophète, il parle, mais il nous rapporte la parole de Dieu, où il s'adresse aux hommes en leur disant, croyants, « As-sawmu li wa ana azzi bihi. le jeûne est pour moi, et c'est moi, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle, qui va évaluer la vraie récompense pour ce jeûne. Et lorsqu'il dit à Saumouli, les commentateurs de ce hadith, ils nous disent, ça veut dire c'est l'adoration où la sincérité, si on peut dire, est la plus présente, si on peut dire. Parce que dans les autres actes cultuels, comme j'ai dit, il y a toujours un côté visible. Alors que le jeûne, c'est vraiment quelque chose d'intime entre le croyant et Dieu. Et ça, ça renforce quelque chose de très important, c'est toute la règle de la sincérité, la bonne intention, c'est-à-dire le rapport que nous devons avoir avec la religion, d'une manière générale, c'est un rapport qui doit partir toujours de cette conviction que nous devons traduire par une pratique, mais nous ne cherchons pas autre chose que de plaire à Dieu, de se rapprocher de lui.
Il faut vraiment que l'intention soit de bien réaliser son jeûne. C'est ce qu'on dit souvent, c'est un hadith, les actes ne valent que par leurs intentions.
Voilà. Oui, c'est un hadith fondamental. D'ailleurs, on le retrouve au début de tous les livres du hadith, parce que c'est la base de tout acte, c'est de partir d'une intention pure. Et pour lier cette question d'intention avec le jeûne, il est tout à fait recommandé, lorsqu'on est à la veille de la première nuit de Ramadan, c'est-à-dire la veille du premier jour de Ramadan, de formuler une intention pour jeûner tout le mois de Ramadan, et il est même recommandé de renouveler cette intention chaque nuit. Et l'intention, moi je le comprends dans le sens que c'est une prise de conscience, c'est-à-dire c'est pas une pratique routinière qui va se répéter, hein. Le mois de Ramadan arrive, c'est-à-dire on va jeûner un jour après jour, c'est le jeûne, mais à chaque fois, c'est-à-dire chaque mois lorsqu'il arrive, mais chaque nuit également, avant d'entamer une journée de jeûne, il faut prendre en considération et conscience que vous faites un acte d'adoration pour Dieu. Bien sûr, il a d'autres bienfaits, le jeûne, mais tout d'abord, commençons par le sens et la signification. Alors, les autres aspects qui sont très importants, le premier, on peut les classer d'une manière ou d'une autre, mais un de ces aspects importants, c'est le jeûne est un moyen qui va nous aider à cultiver une qualité éducative et spirituelle très importante, qui est celle de la volonté. La volonté, c'est le fait de décider d'une manière tout à fait libre et consciente d'entamer une action, et ici bien sûr c'est une action dans le bien, et avoir suffisamment de force intérieure pour tout d'abord penser cette action, l'entamer et la poursuivre. Mmh. Et tout ça c'est lié avec le jeûne, parce que le jeûne, on fait l'intention, comme j'ai dit tout à l'heure, de jeûner tout à moi, mais avec aussi la volonté de poursuivre le jeûne jusqu'au fin de ce mois. Ouais. Et cette volonté, nous avons besoin de la volonté dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne peut pas réussir dans toute entreprise qu'on peut faire dans notre vie s'il n'y a pas derrière une volonté ferme et une détermination.
C'est vraiment d'ailleurs, sans en discuter, c'est vraiment un exercice de constance. Le Ramadan, c'est un vrai exercice de constance, de refaire tous les jours pendant un mois, vraiment remettre son intention, remettre ses objectifs en tête, et vraiment sur 30 jours. Et d'ailleurs, c'est les psychologues qui évaluent le temps pour incorporer une nouvelle habitude, par exemple, on parle d'environ 3 semaines. Mmh. Et donc là, voilà, on rentre vraiment. L'idée, c'est de cultiver pendant ces 30 jours, d'acquérir des habitudes, se pousser à faire certaines choses pour pouvoir, en fait, les intégrer dans son quotidien plus tard.
Tout à fait. C'est-à-dire, d'ailleurs, dans l'éthique musulmane, lorsqu'on parle de l'action dans le bien, toujours, c'est une action qui doit toujours s'inscrire dans la continuité. Il est même dit dans le hadith du prophète que C'est Aïcha, l'épouse du prophète, qui disait que le prophète préfère l'action qui dure dans le temps que l'action intense. Parce que parfois, on est tenté, emporté pour faire quelque chose de bien, mais on va le faire avec une intensité, et après, on va s'arrêter au cours de route. Alors que dans l'éthique musulmane, il vaut mieux se dépenser, si on peut dire, d'une manière raisonnable, mais avec une continuité.
Et se mettre des objectifs atteignables.
Tout à fait.
Et là, il y a une application très pratique. Pendant le Ramadan, on nous pousse à lire le Coran en entier, par exemple. Et ça peut se traduire par un certain nombre de pages par jour pour pouvoir le terminer, etc. Est-ce que parfois, c'est pas mieux de se mettre des objectifs peut-être moindres, parce que si on se dit, par exemple, on va lire 15 pages par jour, si on rate le premier, le deuxième, après on va se retrouver trop. Est-ce qu'il vaut pas mieux, dans ce cas-là, se mettre des objectifs atteignables, quitte à continuer de lire le Coran et le finir plus tard après le mois du Ramadan?
Oui, la lecture du Coran, bien sûr, c'est un acte très recommandé pendant le mois de jeûne, puisqu'on parle le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Il est dit dans le Coran, le mois de Ramadan pendant lequel Dieu a fait révéler le Coran. Certes, il est recommandé pour ceux qui ont la possibilité, parce que la lecture du Coran, ça dépend si on a une facilité de lecture. On peut lire les deux hizb par jour, qui prend moyennement 30 minutes. Ce n'est pas énorme pour quelqu'un qui maîtrise la
C'est ce que
lecture.
j'allais dire, c'est
Voilà.
30 minutes pour quelqu'un
Voilà,
qui
qui
est...
maîtrise. Mais pour ceux qui n'ont pas cette facilité, bien sûr, ce qui importe, c'est une lecture avec une méditation. C'est-à-dire, si on va s'efforcer à lire pour finir un chapitre ou une longue sourate, mais on va le faire d'une manière rapide, sans vraiment se donner le temps à la réflexion, à la méditation. Non, il vaut mieux se donner le temps justement pour méditer, quitte à ne pas lire tout le Coran pendant le mois, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité. Mais il faut quand même avoir son programme. Bon, ça peut être différent d'une journée à une autre, c'est-à-dire lorsqu'on a plus de temps pendant les week-ends. On a plus de temps, on peut donner un peu plus de temps, mais c'est très important que le Coran soit présent dans tous les jours pendant le mois de Ramadan et d'ailleurs en dehors du mois de Ramadan également. Parce que dans la tradition prophétique, on dit bien que le prophète qui a reçu la révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, il l'a reçu d'une manière progressive, mais chaque année, on dit, et c'est magnifique, que Jibril, l'ange Gabriel, c'est-à-dire celui qui est chargé de la révélation, vient au prophète pour réviser avec lui tout ce qu'il a fait révéler précédemment. Et chaque année, c'est une répétition de tout ce qu'il a reçu du Coran. Et à partir de ça que les musulmans ont gardé cette tradition de donner. Et d'ailleurs, pendant les prières de nuit, à Tarawih, les imams récitent chaque soir une partie du Coran pour finir tout le Coran pendant le mois de Ramadan.
Tu parles du Tarawih, c'est très important. Moi, je sais que j'aime beaucoup y aller. Je trouve que déjà, on voit tout le monde et ça fait plaisir de voir une mosquée remplie. Et puis, c'est un moment de communion et on sent bien que le moment du Ramadan, c'est important. Après, il y a l'aspect aussi finalité, toujours moi qui m'intéresse beaucoup. Et ça, c'est vraiment l'exemple que tout le monde nous donne. C'est les personnes qui viennent en voiture, qui se garent un peu n'importe comment, qui ramènent leurs enfants et le lendemain pour aller à l'école, c'est un peu compliqué. Et quand je vois ça, je me dis quand même qu'on passe peut-être à côté des grandes finalités en fait du Ramadan, qui sont en fait ce qui est obligatoire, c'est d'être respectueux, d'exceller, d'être dans le etc. Et là, on voilà, j'ai l'impression qu'on dévie un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à avoir ou un rappel sur ces grands objectifs?
Tu parles par rapport aux voisins, qu'on va les déranger? Oui.
Le respect des voisins, c'est quelque chose d'obligatoire.
Tout à fait.
Tarawih, voilà.
Bon, Tarawih, rappelons-nous que c'est une sunna, c'est une tradition aussi prophétique, qui n'est pas obligatoire, bien sûr.
Mais très recommandée.
Mais les musulmans ont toujours bien célébré ces prières, c'est-à-dire c'est depuis toujours dans les mosquées. Parce que c'est effectivement l'occasion pour bien vivre la spiritualité de ce mois béni. Il se trouve aujourd'hui effectivement que l'heure de l'Isha elle commence assez tard. Et ça fait que effectivement dans les mosquées, autour des mosquées, ce n'est pas toujours facile, et notamment pour les voisins. Et moi je dirais que tout d'abord il y a un respect que nous devons bien observer vis-à-vis de nos voisins. Et moi, je ne cesse de le rappeler dans mes prêches de vendredi pour dire aux musulmans, vous venez pour faire At-Tarawih avec l'intention de gagner une récompense divine, mais faites attention, vous allez commettre des péchés lorsque vous allez être bruyant autour de la mosquée, en sortant de la mosquée. Ouais. Alors, il faut respecter, nous savons tous que l'islam est une religion qui a vivement recommandé le respect du voisin. Et nous avons vraiment des versets coraniques, des hadiths du prophète qui nous recommandent d'une manière intense, vraiment, de respecter ses voisins. Maintenant, pour la prière de Tarawih, parce qu'il y a certains, justement, il y en a beaucoup même, qui travaillent, le fait de rester un peu tard, ce n'est pas facile pour eux. L'islam est une religion de facilité. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire tous les tarawih, ils peuvent faire une partie. Il y a aussi la possibilité d'avancer la prière de l'Isha. Nous savons tous qu'à partir d'une heure après le Maghreb, on peut faire l'Isha, on peut faire quelques raka'at. On peut faire même rassembler les prières en cas où on ne peut pas veiller tard parce que, vu les obligations du travail, etc. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de la faire au début de la nuit, ils peuvent profiter du temps de sahur. D'ailleurs, ça c'est très important car le dernier tiers de la nuit, comme le savons, est un tiers très important où les portes du ciel sont ouvertes, où Dieu il agrée nos invocations, les agrée à tout moment, mais c'est ce moment-là aussi c'est beaucoup plus important que d'autres. Et là, lorsqu'on se réveille le matin pour prendre ce repas de sahur avant l'aube, c'est un moment propice où on peut faire deux raka'at, quatre, six, chacun selon ses capacités. Ça reste toujours une prière recommandée, mais c'est une prière quand même qui va nous permettre de vivre d'une manière, je dirais, parfaite et spirituelle ce mois de Ramadan.
Très bien, donc on a discuté du fait de formuler son intention. Je pense qu'on reviendra à la fin sur comment on formule de manière vraiment pratique cette intention, tous les jours ou au début du Ramadan. On a parlé de la constance et du fait de renouveler sa volonté et que ce soit un exercice de constance important. Et je crois qu'il y avait deux autres sujets que tu voulais aborder.
Oui, il y a aussi, bon, le mois de Ramadan, hein, on le compare toujours comme une école, c'est-à-dire on dit chaque mois lorsqu'il arrive, c'est une école dans laquelle tous les croyants sont inscrits pour suivre un stage intensif d'un mois. Et à la fin, ils doivent sortir quand même avec des choses, comme lorsqu'on fait un stage, on doit sortir avec un diplôme ou avec quelque chose qui témoigne qu'on a bien profité de ce que nous avons suivi tout au long de ce mois. Alors, parmi les choses qu'on peut, bien sûr, réaliser pendant ce mois de jeûne, c'est la question d'avoir aussi cette force de se libérer de nos habitudes, nos traditions. Je parle dans le sens de la vie quotidienne. Nous avons tous un rythme de vie qui est tout à fait répétitif, avec des changements qui peuvent venir, mais d'une manière générale, on répète tous les jours ce qu'on fait, on travaille, on rentre,
on mange, etc.
Voilà la routine, les trois repas, etc. Et lorsque le mois de Ramadan arrive, c'est un autre rythme.
Ça bouscule cette routine.
Vraiment, ça bouscule dans le sens, il y a le temps de sommeil qui va changer, Et il y a bien sûr les repas, il n'y a plus de repas pendant la journée. Il y a toute cette ambiance spirituelle avec les prières, avec l'effort que nous devons fournir. Et tout ça, ça fait changer un petit peu notre rythme de vie. Et moi, je trouve que c'est très important aussi de saisir cette qualité que nous apprenons de ce mois de Ramadan, d'avoir la capacité de changer, de s'adapter à des circonstances différentes. Parce qu'on peut connaître dans notre vie des circonstances différentes et il faut avoir cette force, cette capacité de s'adapter et de changer selon les circonstances.
Et d'être flexible et d'être patient quand on a justement un changement dans notre vie de tous les jours.
Voilà, tout à fait. Parce que, et d'ailleurs là, je fais allusion à ceux qui pensent, ou à ceux dont la pratique parfois, parce qu'ils jeûnent, ils vont être dans un état parfois de colère, etc., parce que ça leur manque leur nourriture, ou leur café, ou je sais pas quoi, ou leur cigarette. Bon, je dis que c'est contraire à l'esprit du jeûne. Et puisqu'on évoque les cigarettes, moi je recommande toujours aux musulmans pendant ce mois pour leur dire profitez de ce mois pour vraiment se débarrasser, se libérer de cette mauvaise habitude. Aujourd'hui,
C'est l'occasion ou jamais
voilà, c'est
de...
l'occasion et jamais. D'ailleurs, beaucoup de gens ils ont testé ça et c'est tout à fait important. Si on se rappelle de cette qualité de la volonté que j'ai évoquée au départ, avoir la volonté qui part d'une foi, qui part d'une conviction interne, en demandant l'aide de Dieu, nous arrivons certainement à dépasser, à vaincre notre faiblesse. Et le fait d'être dans la servitude, si on peut dire, de ces mauvaises habitudes. Alors l'autre point, c'est par rapport justement, et c'est un point très fort pendant le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité et le mois du partage. Et ça, c'est quelque chose de très important, où le jeûne, il ne concerne pas uniquement le croyant dans ce qui est retombé, si on peut dire, spirituel, mais il va le mettre aussi en relation active avec son environnement, avec la société d'une manière générale. Et il est dit que le prophète, c'est Aïcha encore une fois qui nous rapporte que le prophète était quelqu'un de très généreux, elle dit, d'une manière générale. Mais elle dit, lorsque le mois de Ramadan arrive, il va doubler de générosité. C'est-à-dire, il va encore être encore plus généreux. Et cette générosité, bien sûr, elle doit s'exprimer par le fait d'aider les pauvres, par les aumônes. Et aussi, le prophète, il a vivement recommandé de donner à manger à un jeûneur. Et il dit dans le hadith, celui qui donne à manger à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, il aura la même récompense de ce jeûneur-là.
Ah ouais, c'est
Oui,
intéressant.
c'est-à-dire vous allez doubler de récompense votre jeûne, mais aussi le jeûne de celui que vous allez l'aider pour avoir la rupture du jeûne. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'associations caritatives essaient de collecter des dons, des aumônes, pour les envoyer surtout dans les régions où il y a des gens pauvres, effectivement, qui ont besoin d'aide même pour la rupture de leur jeûne. Alors, cette notion de partage, c'est une notion, bien sûr, qui concerne les plus nécessiteux, mais c'est un partage aussi qui doit concerner l'ensemble des hommes et l'humanité d'une manière générale.
D'accord, merci. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur formuler son intention. On voit bien que c'est vraiment important, c'est vraiment un aspect important du mois du Ramadan. Et j'aimerais savoir s'il y avait des manières pratiques de formuler cette intention et de la renouveler, d'ailleurs, puisque c'est recommandé.
Oui, alors l'intention, tout d'abord, comme les savants la définissent, ils disent que l'intention, un niyya, c'est pas dans le fait de formuler verbalement, de dire que je vais jeûner, je vais prier, je vais faire telle chose. Mais ils disent que un niyya, mahalluha al-qalb, c'est-à-dire elle est à l'intérieur de notre cœur. C'est-à-dire, moi toujours, je dis que Ce qui fait que nos actes cultuels, et le jeûne fait partie des actes cultuels, soient différents d'une action routinière qui est répétitive, c'est le fait de formuler chaque fois un niyyah. C'est-à-dire, c'est comme chaque fois, vous allez vous poser la question, pourquoi ça? Pourquoi le jeûne? Pour quel objectif? Pour quelle finalité? C'est ça un niyyah en fait. Il faut se rappeler chaque fois de ces principes, de ce sens, de cette signification. Et c'est ça qui fait qu'il est recommandé de répéter, de renouveler l'intention chaque nuit. Et d'ailleurs pour la prière également, c'est-à-dire pour chaque prière, bon, on sait bien que lorsqu'on fait les ablutions, nous allons prier, on va dire que d'une manière indirecte,
On se prépare.
l'intention, elle est là. Mais quand même, il est demandé qu'on la formule au niveau intérieur. Et lorsqu'on est ramené à formuler un niyyah au niveau intérieur, c'est-à-dire c'est un moment de réflexion, c'est un moment de méditation que nous devons avoir avant d'agir.
Et d'ailleurs, cet aspect d'intention, pour moi, ça s'inscrit aussi dans la vie de tous les jours, parce qu'on sait qu'en fait, n'importe quel acte qu'on fait peut devenir un acte d'adoration, dans la vie de, même en dehors du Ramadan, peut devenir un acte d'adoration à partir du moment où l'intention est la bonne. C'est-à-dire que si je vais travailler pour pouvoir, enfin, avec des bonnes intentions, ça peut devenir un acte d'adoration. Et en fait, cet exercice d'intention, il est important. Même pour les activités qui ne sont, enfin, pour les actes qui ne sont pas cultuels.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire la question des actes cultuels sont les actes qui sont prescrits, mais en dehors de ça, nous avons tous les actes qu'on peut faire dans la vie de tous les jours qui ne sont pas concernés par aucune prescription. Tant que ces actes sont dans le cercle de ce qui est autorisé et ils ont un intérêt pour nous, pour les autres, c'est un acte tout à fait récompensé, mais à condition d'avoir justement cette intention derrière. C'est-à-dire, c'est pour dire que nos actes doivent être des actes conscients.
Exactement. Mettre du sens
Voilà,
derrière.
mettre du sens derrière ce qu'on fait. Parce que parfois, on fait quelque chose d'utile, quelqu'un qui travaille, parfois qui travaille dur. Hein, c'est pas très facile pour des heures et des heures, mais si on a cette intention derrière, si on doit mettre du sens, parce que ce travail c'est utile, ça peut porter de l'intérêt pour les autres, etc., et pour soi-même, là on va donner ce sens-là, et ça c'est très important, et c'est le sens effectivement de l'intention.
Très bien, donc pour conclure, si je devais faire une rapide conclusion, ça serait de se recentrer sur l'intention, qui est vraiment la pierre angulaire du Ramadan, de se rappeler que le Ramadan, c'est le jeûne, mais c'est aussi l'abstention de plusieurs choses, que c'est un acte intérieur qui se passe vraiment entre le créateur et le créé. Et donc ça, c'est vraiment un aspect important. Le fait d'avoir que ce soit un exercice de constance, et j'aimais bien l'idée de dire que c'est un stage intensif et qu'on doit en ressortir avec quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment un exercice de constance et de volonté absolument important, puisqu'on s'abstient de choses qui sont licites, en fait.
Pour nous
Et
donner la force pour s'abstenir de ce qui est
illicite,
illicite.
exactement. Et
Voilà.
c'est vraiment un exercice de self-control, je pense, assez important. Aussi de savoir changer de rythme et d'accepter ces changements de rythme et d'être flexible et s'adapter. Et enfin, le sens du partage. Et en fait, quand on a faim ou qu'on a soif, c'est aussi un mini-stage de ce que certaines personnes peuvent vivre au jour le jour. Et tout ça, ça doit nous toucher au cœur et nous pousser à l'action. Et chacun, évidemment, donne et fait avec ses moyens. Il y a quand même un sujet aussi qu'on a discuté, c'est sur les finalités du Ramadan. C'est un stage intensif pour qu'on devienne meilleur, qu'on s'améliore et qu'on ressorte meilleur de ce mois par rapport à quand on l'a commencé. Et donc évidemment, il faut toujours, si on va au Tarawih, qu'on se place dans une place de parking et qu'on sache profiter au mieux de ce mois toujours en mettant le sens et l'intention. Et je pense que c'est le plus important. Wallahu a'lam.
Oui, c'est bien résumé. Barakallahu fik. Shukran, Sarah.
Merci beaucoup. Pour le prochain épisode, nous parlerons du Coran, puisque comme nous l'avons dit, le Ramadan, c'est le mois du Coran avant tout. Et pour parler du Coran, nous aborderons les 5 finalités du Coran telles que définies par Mohamed El-Ghazali au travers de ces finalités. Nous exposerons des exemples également. Merci beaucoup et au prochain rendez-vous.
Merci.